L'association des amis de la Bibliothèque franciscaine des Capucins est heureuse de vous saluer, vous souhaiter la bienvenue. Voilà, un public fourni ce soir, c'est très encourageant. Donc pour la première soirée de notre cycle de l'année scolaire 2012-2013, et il y aura donc plusieurs autres conférences. Avant d'annoncer celle-ci, il y en aura une le 13 décembre, je crois. Il me semble que c'est il y aura une conférence sur John Brandborn, un martyr franciscain du XXe siècle, par Didier Rance. Et puis, tout récemment, on vient d'apprendre, on aura également une conférence le 10 janvier sur le frère Luc, un peintre franciscain au siècle de Louis XIV. L'activité des semaines qui vont venir. Et puis maintenant, je passe la parole à Fabien Guillou, pour nous présenter le conférencier de ce soir.
Merci, bonsoir. On m'a demandé de vous présenter Max. Ce n'est jamais un exercice facile de devoir présenter son propre frère. Et bon, je suis très heureux quand même de vous présenter Max de la Sèche. Max de la Sèche est frère mineur. Il est originaire de Belgique. Il a ses parents, c'est d'être belge. Et il vit depuis maintenant 17 ans, me disait tout à l'heure, à Besançon, donc qui pendant très longtemps a été la communauté du noviciat pour la province des frères mineurs. Et donc à ce titre, il a eu l'occasion de s'occuper beaucoup de la formation des frères. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir parce qu'il vient de publier son opus numéro 1. Parce que Max est un grand conférencier depuis des années. Il sillonne la France, la Belgique et aussi l'Afrique, si je me souviens, pour donner des sessions de formation sur la culture franciscaine. Mais il n'avait jamais écrit. Et donc les éditions franciscaines m'ont passé commande il y a 2 ans maintenant, je crois, de ce petit ouvrage qui vient de paraître, Le cœur du petit pauvre, qui est une sorte de réflexion, de méditation. Il vous en dira un petit peu plus sur le testament de François d'Assise, qui s'enracine un petit peu dans son expérience de formateur et dans ses différents services de ministère. Donc il va vous parler plus amplement, je lui cède tout de suite la parole. Merci Max.
Voilà. Alors, un petit historique, si vous voulez, sur ce livre. Pourquoi est-ce que j'ai commis cette erreur de publier ce livre? D'abord parce que je l'ai pas mal travaillé pour les novices. Je l'ai travaillé pour des amis pendant certainement 1 an qui voulaient partir à Assise. Et ils sont partis à pied, 2 couples d'amis sont partis Bruxelles-Assise à pied. Et puis en lisant le cœur du petit pauvre, le testament, ils se sont rendu compte qu'il fallait qu'ils partent comme les premiers frères. Et ils sont partis sans argent, sans rien, comme ça, mendiant leur nourriture et le logement comme les premiers frères. Et cela à partir du testament. Donc vous voyez cet effort enraciné sur le chemin. Pourtant, c'était des gens qui avaient des positions assez importantes dans la société. Et alors partir, vous savez, comme ça, pendant 2 mois, sans un euro en poche, et bien il faut faire cette expérience. Il y a des frères actuellement avec qui je vis qui, souvent, dans l'itinérance, repartent comme ça pendant 8 jours. Alors ça, c'est certainement, je dirais, un enracinement dans le chemin, si vous voulez. Il y a aussi, le testament m'a toujours un peu interpellé, je l'ai souvent médité, je l'ai fait passer un petit peu de la compréhension dans le cœur, je le porte souvent en moi, et c'est dans le fond le testament qui m'a aidé à travailler de mes mains. Moi, je travaillais de mes mains, dit François, et donc j'ai été travailler pendant 25 ans. Je me suis tu, j'ai poussé des chariots, j'ai déchargé des camions pendant certainement 11 ans, et puis je suis devenu peintre tapissier chez des gens pauvres, pour refaire un peu les logements des gens pauvres. Donc, voyez, ce que je vais vous dire ce soir, c'est un peu enraciné dans mes mains, dans mes mollets, dans mon cœur. Je vais le parcourir, si vous voulez, avec vous. Vous savez, François d'Assise est une personne qui est montée tellement, tellement loin dans le radicalisme de l'Évangile, de la foi, que plus le Père monte haut, plus les fils ont tendance à s'arracher l'héritage dans tous les sens. Et je me souviens d'un ami qui était psychanalyste et qui m'a dit tu vas voir ce que Freud dit de ta religion. Et puis il me passe un bouquin de Freud, et puis qu'est-ce que je lis? Je vois que Freud aimait beaucoup François d'Assise, et qu'il dit François d'Assise est l'homme qui a peut-être été le plus loin dans la voie de l'intériorisation de l'amour. Alors je lui ai relancé ça après à mon copain. C'est vrai que Sabatier, commençant ses cours à Strasbourg, dira que François est le plus grand saint que l'Église catholique ait engendré au cours des âges. Quand il l'a dit, c'était pas encore l'œcuménisme entre les protestants et les catholiques, mais Sabatier, c'est lui qui a mis en branle un petit peu tous les franciscanisants, et jusqu'à aujourd'hui où nous savons que des laïcs ont sorti ces deux gros bouquins blancs. C'est quand même assez extraordinaire ce travail qui est fait autour de la personne de François. Lénine, il faut savoir aussi ça, Lénine sur son lit de mort a dit à un de ses condisciples du séminaire, et ça nous a été rapporté, il semble que ça soit assez vrai, et dit: je me suis trompé, tu sais que c'est pour moi un cauchemar mortel de me sentir perdu dans un océan de sang. Pour sauver la Russie, ce qu'il fallait c'était dit François d'Assise. C'est quand même, voilà. Alors on est évidemment heureux d'avoir toute cette littérature, tous ces écrits, toutes ces biographies, et c'est une chance. Quand il faut savoir que Saint Bruno, on a écrit sa vie 450 ans après sa mort, nous n'avons pas de testament de Bruno. Nous n'avons pas de testament de Saint Benoît. Et donc nous avons la chance d'avoir tous ces écrits de François, d'avoir ses règles, d'avoir ses prières, d'avoir ses admonitions. Fénelon dira d'ailleurs: les paroles propres des saints sont bien autres que les discours de ceux qui ont voulu les dépeindre. Donc c'est toujours beaucoup plus important. Alors j'ai donné le titre parce que je trouvais que c'était important, le cœur du petit pauvre. Donc nous avons la chance d'avoir cet écrit de François, écrit essentiel, non pas écrit de la main de François, mais par son secrétaire. Donc c'est François qui le dictait, c'est comme ça qu'on le faisait. On sait bien que à l'époque, même les rois parfois ne savaient pas écrire. Donc François dira d'ailleurs « mon testament ». Et nous savons que ce testament de François, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage. C'est François qui, après 20 ans, repense un petit peu à tout ce cheminement. Et il va le résumer quelques mois avant de mourir. Et il va donc j'allais presque dire célébrer. C'est un peu ça, célébrer cette vie. C'est d'ailleurs André Vaucher qui dira que c'est l'un des plus célèbres et des plus importants écrits de François, où François donc va célébrer. Alors bien que formellement interdit d'ajouter des commentaires, peu de textes ont été aussi commentés, interprétés, discutés au cours des siècles. Les frères d'ailleurs n'en sortant pas se disputaient. Il faut savoir qu'on a brûlé le testament sur la tête d'un frère, tellement il y avait des combats. Est-ce qu'il faut suivre le testament ou est-ce qu'il ne faut pas? Alors les frères sont allés voir le pape Grégoire IX en disant: est-ce que ce testament a force de loi? Et Grégoire IX, en tant que juriste, a dit ben non, mais en fait il n'empêche que ce testament a marqué des générations de frères et de sœurs. Nous n'avons pas le temps ici, mais ce serait intéressant de comparer, puisque nous sommes dans l'année du 800e anniversaire de la fondation de Clare, ce serait intéressant de voir la différence entre Claire et François sur le testament. François, il tape sur la table, il hurle, il crie. Et Claire, c'est beaucoup plus lumineux. Mais il y a des questions de tempérament, là, où je pense aussi. François est quand même plus angoissé que Claire, et donc il est plus pris par tous ces problèmes internes. Alors, je vais faire un petit commentaire de ce que je trouve important dans le testament. Donc vous voyez, dans mon petit livre, il y a deux temps, si vous voulez. Un, c'est un peu le commentaire. Donc je prends les phrases après phrases, je fais donc un commentaire. Et puis deuxièmement, pour aujourd'hui, quelques pistes. Est-ce qu'on peut, à partir de ce testament, parce que c'est bien de faire de l'histoire, mais il est important de voir un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux découvrir. Alors, dans l'introduction, donc, je montre que le testament de François, eh bien, c'est comme d'autres testaments, comme par exemple le testament d'Antoine, hein, 4e, 5e siècle, Antoine avant de partir, hein, qui dira « Respirez toujours le Christ, croyez en lui, vivez chaque jour comme devant mourir, et maintenant mes enfants, Antoine fait route, il n'est plus avec vous. » Je trouve ça magnifique comme testament. Hein. Antoine fait route, il part, voilà. Mais il laisse un peu quelque chose d'essentiel. Ignace aussi, Ignace, vous savez, autant Thérèse d'Avila parle beaucoup, Thérèse d'Avila dit « je », mais ça va tellement loin qu'on peut universaliser sa pensée. Hein. Tandis qu'Ignace, il se cache un peu. On pourrait dire qu'il se cache, il cache sa vie mystique derrière, comment est-ce qu'on pourrait dire, derrière les exercices spirituels, quelque part, qui sont une merveille. Vous savez, de temps en temps, je lance un peu une petite pique, hein, sur les jésuites. Si je lance une pique sur les jésuites, c'est simplement parce que j'ai été renvoyé dans de leur grand collège. Donc, alors je me rattrape un peu. Mais je les aime beaucoup et d'ailleurs, je travaille parfois avec eux. Hein, donc, j'aime bien les jésuites. Mais il n'empêche que c'est très intéressant, si vous avez un jour l'occasion, vous prenez les exercices spirituels, hein, et vous allez voir qu'il y a des tas d'exercices que vous retrouvez déjà, hein, dans les Fioretti ou dans les Actus. Vous retrouvez. Allez voir de temps en temps, c'est extrêmement intéressant. Hein. Il n'empêche que le père Nadal a essayé d'interroger Ignace sur son chemin spirituel, hein, et il dira ceci. Hein. Ignace dit ce qu'il veut dire. Il ne raconte pas sa vie. C'est intéressant parce que François, en fait, ne raconte pas sa vie. Hein. François va prendre l'essentiel de ce qu'il a reçu du Seigneur, hein, pour que ça ne se perde pas. Mais il ne raconte pas, ce n'est pas une autobiographie. Il ne raconte pas sa vie. Hein. Et alors, donc, le récit, dira le père Nadal, hein, n'est qu'une autobiographie en apparence. Il retient de son expérience ce qui lui semble utile pour que ses frères puissent entendre ce que signifie son œuvre parmi eux et avec eux. Tous les mots portent. Et je pense que, enfin, j'ai aimé de mettre ça dans l'introduction, parce que tous les mots de François portent. Tous les mots sont importants. Tous les mots ont été ruminés, vécus, j'allais presque dire contemplés dans la figure du Christ. Et il est intéressant de voir que le regretté Claude Guy, donc je prends des gens un peu en dehors, Claude Guy qui donnait cours aux novices, et c'était un cours où il reprenait un petit peu toutes les grandes spiritualités. Et donc, quand il arrivait à la spiritualité franciscaine, il parle du testament. Et il dira « Ce document n'a pas son égal en simplicité, en intensité. » Le ton évangélique est unique, et aussi l'aspect dramatique. J'essaierai un peu de le montrer, l'aspect dramatique. Avant de mourir, François se met à nu pour empêcher, hein, que ce qui a été son intuition risque de se pervertir. Je crois que le regretté père Guy a vraiment compris un peu l'essentiel. François redit avec ses mots à lui, un peu l'essentiel de ce qu'il a reçu du Seigneur pour que ça ne se perde pas. Alors, c'est évident qu'on a besoin de rentrer un peu dans le contexte historique pour comprendre le Testament. L'histoire du mouvement franciscain est sans doute une histoire des plus mouvementées. Et donc, comme je l'ai dit, plus le Père est monté haut, plus on va s'arracher donc, l'héritage. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Celano, quand il termine sa deuxième biographie, il dira « Souviens-toi, François, de tes fils qui n'arrivent que de très loin à suivre tes exemples. » Et c'est vrai. Chaque fois que François est tellement monté haut qu'on se sent vraiment petit, là. En fait, nous sentons dans le Testament, si vous voulez, le conflit entre la naissance et la croissance. Je crois que c'est... On le retrouve à toutes les pages un peu du Testament. Conflit entre la naissance et la croissance. Le groupe restreint qui était autour de François quand il avait 10-12 frères, il vivait, François était le frère, on l'imitait, et on vivait avec lui, tout était beau, tout était serein, tout était dans ce dynamisme évangélique, et il est un fait que l'ordre a énormément grandi, il y a une croissance de pratiquement 80% par an, vous voyez ce que ça fait. 80%, ça fait donc un cercle de plus en plus fort. Et alors donc les nouveaux frères qui ne connaissent plus François, qui n'ont pas vu François, ils viennent avec des nouvelles aspirations. Il y aura le problème des études, il y aura la prédication, il y aura le problème du travail. Et alors François, à l'approche de sa mort, sent des déviations par rapport à ce qu'il a reçu. Et donc il va à ce moment-là souffrir et il va donc taper un peu sur la table et le testament va être le porte-parole de certains et il va être rejeté par les autres. Et il est intéressant de voir que Bonaventure, mais que le brave Bonaventure, il se retrouvait avec 35 000 frères qui couraient dans tous les sens, et il a voulu mettre un petit peu de l'ordre dans le désordre. Et donc, Bonaventure, il cherche toujours un peu à unifier l'ensemble, et donc il ne parlera pas, dans sa légenda, il ne parlera pas du testament. Ça montre bien qu'il y avait un problème dans l'ordre. Alors, je pense que le testament, il doit nous enflammer. Il ne faut pas commencer à dire est-ce qu'on est obligé de le suivre, est-ce que c'est une règle qu'il faut suivre. Ce n'est pas ça. Je pense que le testament doit nous enflammer, il doit nous donner des ailes, il doit nous donner du courage de vivre, il doit nous donner une fierté aussi. Je pense qu'on peut être fier d'avoir un tel père. Alors donc, je vais d'abord faire un tout petit commentaire, c'est-à-dire que je vais prendre quelques points qui me semblent importants. Donc vous avez trois grandes articulations dans le testament, La première grande articulation, c'est la sortie du siècle et la foi de François. Deuxième grande articulation, parce que là, il y a vraiment un tournant, c'est la mémoire du début de la fraternité. Donc, c'est tout là avec le don des frères. Alors, la troisième grande articulation qu'il faut bien comprendre avec le contexte historique, qui est la mise en garde de François, et puis il y a après une conclusion, le cœur de François, sa bénédiction finale, et un peu une clé pour notre vie. Donc je commencerai donc à prendre un petit peu. C'est premièrement, vous avez la sortie du siècle. Donc vous avez là, dans la sortie du siècle, le Seigneur donne, le Seigneur conduit, l'expérience de la miséricorde, le passage de la mer à la douceur, et donc vraiment, François peut sortir du siècle. Donc, c'est le seul endroit, ici, où François parle de sa conversion. Donc, bien sûr que les biographes vont en parler, dans la conversion de François. Mais ici, c'est important de voir que c'est François qui va parler de sa conversion. Donc, si cette conversion est fondamentale pour François, elle sera aussi fondamentale pour les frères et les sœurs qui viendront après lui. Et donc, dans le jaillissement de la conversion de François, se trouve en semence toute la vie des frères et des sœurs. Il faut bien voir ça. Et donc, François commence par parler de sa conversion, et ça, c'est extrêmement important. Alors, il dira, « Le Seigneur me donna à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. » Donc, il y a chez François une prise de conscience, et j'y reviendrai souvent, prise de conscience très forte que tous les biens viennent de Dieu. Ça, c'est capital, c'est essentiel pour François. Il a reçu. Quelque part, il a reçu sa conversion. Donc, la conversion de François n'est pas partie d'un effort de volonté ou d'une culpabilité, elle est partie d'un don du Seigneur. Alors, commencer à faire pénitence, il faut savoir que c'est Saint Jérôme dans la Vulgate qui a parlé de faire pénitence. Et en fait, pour François, il s'agit de conversion, de conversion radicale. Commençons, mes frères, dira-t-il à la fin de sa vie, à servir le Seigneur, car c'est à peine si nous avons jusqu'ici accompli quelque chose. Et donc, Claire reprendra ça aussi, parce que quand elle dira « Garde mémoire de ta vocation, regardant toujours ton commencement. » Et donc, François prend le commencement, c'est là qu'il est. Alors, il parlera des péchés, et bien sûr que Célano va essayer de trouver quels sont les péchés de François, et comme le dit le Théophile des Bonnets, on n'en sait rien. François était sans doute coupé de Dieu, mais ne commençons pas à faire des élucubrations pour savoir si c'était tel ou tel péché, il ne s'agit pas de cela. Alors, c'est le Seigneur qui conduit. Et je pense qu'il y a des passages, il y a des déplacements, déjà pour notre propre vie. Il y a des nouvelles orientations qui ne peuvent se faire que par grâce. Quelque part, le testament de François, c'est une illumination de la grâce. Et dans le fond, le Seigneur le conduit. Et le Seigneur va le conduire vers les lépreux. Et nous savons bien que la rencontre du pauvre, tous ceux qui le font régulièrement, la rencontre du pauvre est une terrible école. Et cette rencontre du pauvre peut être terriblement amère. Et nous savons bien que nos grands élans de générosité, s'ils ne viennent pas de la grâce d'être conduits, eh bien, ça ne tiendra pas. Et d'ailleurs, il est toujours très très intéressant d'écouter une mère Teresa qui se sentait abandonnée de Dieu. Parce qu'elle se sentait abandonnée de Dieu, elle est allée s'occuper des abandonnés. Dans la rue. C'est ce que les psychologues appellent la résilience. Donc, elle s'est servie de ce qu'elle ne sentait pas pour s'occuper des abandonnés. Il n'empêche que c'est une terrible école, l'école des lépreux. Donc, François n'a pas été vers eux avec un sentiment de pitié ou appel quelques élans caritatifs. Il a été poussé, il a été embauché, il a été pris par la main pour la rencontre des lépreux. Et c'est là qu'il fait l'expérience essentielle, on appelle l'expérience de la miséricorde. L'expérience de la miséricorde, miséricorde, miséricordé, il a mis son cœur sur la misère du lépreux, comme Yahvé dans toute la Bible, met son cœur sur la misère de l'humanité. Et ce mot est très très fort, donc c'est une sorte d'amour fou et maternel de Dieu pour l'humanité. C'est ça le terme miséricorde. Et le père Varillon, qui a bien compris cela, hein, dans la rencontre du lépreux. Il dit cette belle phrase, « Dieu est l'éternel baiser au lépreux. » Dieu est l'éternel baiser au lépreux. Il y a de l'amour dans l'étreinte d'une chair jeune et fraîche. Mais quand il s'agit de l'étreinte du lépreux, alors l'amour se manifeste dans toute sa gratuité. Il n'y a rien pour celui qui étreint, il est complètement sorti de soi, tout est pour celui qui est étreint. Et je pense que l'expérience de François, hein, c'est de sortir complètement de lui, hein, pour aller à la rencontre de celui qui l'effraie. Hein. Et donc il y a, nous savons bien, hein, ce passage de l'amer à la douceur. Hein, nous connaissons bien, ce texte est souvent repris, et il est extrêmement important parce que je pense que dans nos propres vies, nous pouvons aussi faire ce passage de l'amer à la douceur. Dans mon travail et chez les gens, parfois, il y a eu des choses assez... je sentais bien que c'était pas moi. Cette douceur qui était en moi, c'était l'horreur. Quand on devait aller travailler vraiment dans la merde chez des gens alcooliques depuis 10 ans et qui laissaient tout traîner, c'était vraiment... Il y avait les rats, il y avait tout. Eh bien, on était poussé, on faisait vraiment cette expérience. Moi, je l'ai faite quelques fois, cette expérience du passage de la mer à la douceur, à tel point que les gens venaient nous dire mais comment ça se fait que vous venez chez nous? Mais on était heureux. C'était des grands moments d'humanité dans notre cœur. Voilà. Et donc François, pour reprendre le mot de Maurice Bellet, hein, il est rentré dans la divine douceur. Je trouve ça très beau, cette expression, hein, la divine douceur. Alors, je passe après, donc, parce que je ne pourrais pas être trop long, la foi dans les prêtres, hein, dans la, on pourrait dire la foi dans les pauvres petits prêtres. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de François, il y avait un double fléau. Hein. Il y avait le fléau d'abord de la simonie, hein, donc ce sont des trafics des charges ecclésiastiques, on gagnait de l'argent, hein, à partir des sacrements. Et alors il y a le problème du célibat ecclésiastique. Hein, et alors, il y avait la grosse question à l'époque, quand un prêtre simoniaque ou concubinaire célèbre l'Eucharistie, est-ce que son Eucharistie est valide, hein? C'était vraiment une grosse question. Hein? Et là, donc j'en reparle, vous pourrez éventuellement reprendre ça. C'est intéressant de voir la différence entre François et Luther. Hein? C'est Bernanos qui dit ça, hein, en parlant de François. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église des biens mal acquis, il l'a comblé de trésors invisibles, et sous la douce main du mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. Bien sûr que c'est dit d'une façon poétique, hein, mais je crois que François, par rapport aux prêtres, il emploie d'ailleurs des mots qu'on emploie pour Dieu. Hein. Les prêtres, il faut les craindre, les aimer, les honorer. C'est quand même assez intéressant. Et alors, il y a vous connaissez tous ces passages. Hein. Si les frères, au lieu d'accuser, hein, les prêtres, ils s'accusaient aux prêtres. Donc, pour leur redonner sa dignité de sacerdoce. Alors que souvent, à l'époque, on reprendra peut-être ça, hein, il y avait une accusation des vies pas très morales des prêtres. La foi dans les prêtres. Donc, pour François, c'est extrêmement important. La foi de François, hein, c'est vraiment le radicalisme de la foi. Et je pense qu'il faut bien voir ça. Notre frère Tadej Matura l'a bien montré. Le radicalisme n'est pas d'abord la pauvreté. C'est un radicalisme de la foi, bien sûr, qui l'amène à la pauvreté. Et c'est comme cela que François aura la foi dans les églises, hein, D'abord, il commence toujours petitement, c'est très intéressant. La foi des églises avec un petit E, hein, et c'est cette foi-là, quand il va la reconstruire, hein, qui va l'amener à la foi dans l'église avec un grand E. Hein. Et l'église, au temps de François, était un peu l'auberge du bon Dieu, où tout le monde pouvait y venir. Et il faut savoir que les frères étaient donc en itinérance, et donc ils pouvaient loger un petit peu dans les églises. La foi dans l'Eucharistie, hein. Nous savons bien que François, donc c'était au moment de la 34, hein, 1215, hein, donc il va réagir un peu et il va être un petit peu le porte-parole, hein, du concile, qui est un concile extrêmement important, le concile Latran, hein, et c'est pour ça qu'il dira que les saints mystères, hein, saints mystères, je veux qu'ils soient par-dessus tout honoré, vénéré, placé dans des lieux précieux. Il faut savoir que parfois l'Eucharistie traînait là n'importe où, était mangée par les rats, etc. Et donc pour François qui avait foi dans l'Eucharistie, hein, et j'ai dans mes voyages en Afrique, j'ai vu parfois des petites sœurs africaines qui allaient trouver le prêtre, hein, parce que l'église et l'autel et les linges et tout ça étaient très sales, étaient très déjetés, et qui allaient trouver le prêtre à partir du testament. Hein, et qui allait lui demander de vénérer, d'honorer, et que c'est extrêmement important. Alors, il y a aussi la foi dans les théologiens, ceux qui administrent les paroles. Hein. Il faut savoir que pour François, le moindre écrit est extrêmement important. Hein. Aujourd'hui, il y a multiplication. Des écrits, hein, et des paroles, hein, avec tous nos gadgets. Hein. Petit détail ici, j'ai rencontré au Maroc un homme assez extraordinaire. Il s'appelle Daniel Duigou, que certains sans doute connaissent. Il vient de sortir un livre, La Tour de Babel. Daniel Duigou disait, il est d'abord journaliste à la télévision, et puis il est devenu psychanalyste, puis il est devenu prêtre, puis il est devenu ermite. Vous voyez le parcours de ce bonhomme, c'est assez incroyable. Alors il sait de quoi il parle, hein. Et alors il dit que la multiplication, hein, de tous ces portables, etc. Hein, écoutez, je ne suis pas contre le portable, j'en ai un, hein, c'est pas ça. Mais il dit que la multiplication, nous en arrivons à la non-communication, hein, si nous développons trop. Alors, au temps de François, hein, il n'y avait pas cette multiplication, hein, des écrits. Hein, il y avait, rappelez-vous, le copiste, hein, qui, de jour et de nuit, recopiait la Bible. Donc, c'était extrêmement important. Donc, François voulait, dès qu'on rencontre le moindre écrit, hein, parce qu'avec ces mots-là, avec sa foi simple, avec ces mots-là, on pouvait mettre le mot de Jésus-Christ. Hein, et donc, toutes les syllabes, on pouvait refaire le mot. Donc, pour lui, c'est extrêmement important. Hein. Et donc, tout cela, que ça soit l'écrit ou que ça soit le théologien qui écrit, pour François, c'est très important. Alors, nous arrivons à la deuxième grande partie. Hein. Deuxième grande partie, donc, qui est le mémoire du début de la fraternité. Alors, vous voyez, ici, il va y avoir un passage assez intéressant du « je » au « nous ». Et ça va être assez fondamental pour François, et ça va être aussi un peu sa croix. Hein. Il n'empêche qu'il y a le don des frères. C'est nouveau. Tout est donné. Il y a le don des frères. Hein. Le Seigneur m'a donné des frères. Hein. Et André Vaucher dira, François n'a pas fait de prosélytisme. Il n'a pas cherché à fonder, hein, une congrégation. Ce n'était pas dans ses idées, fonder une congrégation religieuse. Mais il s'est réjoui. Hein. Il s'est réjoui que des frères le rejoignent. Hein. Et de voir que son expérience personnelle va déboucher de façon inattendue à la formation d'une petite communauté. François n'avait pas prévu ça, mais il a reçu des frères et la communauté, elle est née. Alors c'est à partir de là qu'il dira « Le Très-Haut me révéla que je devais vivre selon le Saint-Évangile. Donc là, nous avons une révélation décisive, hein, et de nouveau, c'est un peu neuf. Hein, les religieux, hein, de l'époque de François, hein, ils se rattachaient surtout aux actes des apôtres, il faut savoir ça. Et pas à l'évangile. Et donc, Éloi Leclerc a raison de dire il y a un retour à l'évangile. Je ne dis pas que l'évangile n'était pas vécu, pas du tout, mais il n'empêche qu'il y a eu un retour fondamental à l'évangile qui a vraiment marqué toute l'Église en ce temps-là. Hein. Et donc, François voulait que ce retour, eh bien, ça soit notre forme. On pourrait dire que ce soit notre moule, hein, dans lequel nous devons nous couler. Hein, hein. C'est une tentative poussée à l'extrême, dira encore Vaucher, pour se conformer à l'Évangile et en faire une norme absolue de comportement. Et pour François, c'est toujours ce retour-là. Hein, hein. Norme absolue de comportement. Et il ira jusqu'au bout. Dans cette norme, chaque fois, c'est sa référence. Hein. Alors, donc, à ce moment-là, il va faire écrire. Hein. Je fais écrire. Hein. Et puis, le pape va lui confirmer. Hein. Il est assez intéressant de voir que, d'après les historiens, ça n'a pas été si simple, hein, cette rencontre entre Innocent III, hein, et les premiers frères. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque pas mal de mouvements hérétiques, hein, et que les frères, le pape, quand il a vu arriver ces hommes un peu hirsutes, il s'est demandé un petit peu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore une nouvelle secte, hein? Et d'après Roger Vendever, Innocent III aurait dit à François, frère, va garder les cochons. Hein, j'en ai parlé à un historien, me disant il est possible que Innocent III ait sorti ça parce que c'était un pape un peu dur. Hein. En tout cas, Sabatier dira le trait est d'un tour bien franciscain et on doit avoir quelques bases historiques. Peut-être que ça a été un peu, hein, vous savez, quand on écrit l'histoire, on en rajoute un petit peu, hein, mais d'après Sabatier, il y aurait quelques bases historiques. Hein. Et en fait, et c'est l'historien lorsqu'il dira cette entrevue symbolisait la concentration de toutes les forces vives de l'Église, celle du pape maître du monde et celle du plus saint et du plus pauvre François. Hein? Et alors Lors dira les deux hommes concourant au même but religieux. Et c'est ça qui est quand même un peu extraordinaire, hein, le pauvre et le roi, hein, qui se rencontrent. Alors nous savons que nous avons eu là une approbation orale, hein, et donc c'est l'approbation avant 1215, ça veut dire que notre règle a été acceptée, tandis que par exemple les dominicains venant après, ils devront prendre la règle d'Augustin. Hein. Donc il y a eu une grande chance. Donc, et Claire a pu se rattacher après pas mal de bagarres. Hein. Ça, en fond, Claire a dû se battre encore plus. Hein. Sans doute parce qu'elle était femme, elle a dû se battre encore plus avec les papes et, hein, et Grégoire. Hein. Elle a été jusque faire une grève de la faim, Claire. Enfin, voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a l'entrée dans la fraternité qui est l'entrée dans la vie. Hein. Hein. Donc il y a une sorte de petite cellule réconciliée où des frères s'aiment, s'entretiennent, s'encouragent et s'aident à vivre l'évangile, parce que l'évangile, bien sûr, n'est pas facile à vivre. Alors il va parler alors de l'office divin, il en parlera deux fois, et c'est extrêmement important, ça veut dire que c'est un groupe religieux qui est reconnu, hein, et qui va prier, donc l'office divin. Puis alors il dira, après, nous étions illettrés et soumis à tous. François d'ailleurs se décrira comme idiota, hein. C'est pas l'idiot du village, hein. C'est à l'époque c'était celui sans culture. Il se dira d'ailleurs ignorant et illettré, hein. Et il y a des tas de passages où François va commenter l'évangile, et les théologiens diront, mais cet homme a vraiment, c'est l'essor d'un aigle, tellement il va loin. Hein. Il pénétrait, dira Celano, hein, ce qu'il y a de caché dans les mystères, là où la science des maîtres restait dehors. Hein. Et d'ailleurs, au procès de canonisation, Grégoire IX dira qu'il était savamment ignorant, hein, hein, et sagement inculte. Oui, mais il n'empêche que François avait quelque part dans son manque de culture, il avait une expérience religieuse et une expérience de foi extrêmement forte. Hein. Et si vous lisez Maurice Zundel, hein, donc c'est la retraite qu'il a faite donc aux franciscaines au Liban. Hein, et il va parler là dans cette retraite de cet extraordinaire théologien, hein, de la Trinité, hein, qui va encore plus loin que saint Augustin, qui est François. Il dira ceci, hein, cet homme unique dans l'histoire chrétienne qui n'est aucunement théologien est le plus grand docteur de l'Église. C'est lui qui, sans le savoir, avec toute la sincérité de son ignorance des livres savants, des livres universitaires, c'est lui qui, dans son ingénuité, a pu aller au bout de cette image de dame pauvreté, c'est-à-dire de l'identité entre la Trinité et la pauvreté. Et donc c'est une retraite qu'il a faite, et il en a parlé d'ailleurs plusieurs fois. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il dit à certains moments, mais le dieu de l'islam, Zundel, donc il a été un peu mis, un peu, je pense que c'était en Égypte, et alors il se dit, l'islam m'écrase un peu. Et alors il a redécouvert le dieu de François. Hein. De toute façon, il y a eu, on pourrait, pas trop longtemps là-dessus, il y a eu vraiment des discussions. Est-ce qu'il faut rester illettré, hein, est-ce qu'il faut être savant, est-ce que, hein, il y a eu certainement, c'est d'un Scott qui montrera que les études ne s'opposent absolument pas à la simplicité, hein, il dira qu'il n'y a pas de conflit entre les études et la pauvreté franciscaine, hein. Ce fut néanmoins un grand débat dans l'ordre. Et puis alors, après, François va dire « je travaillais de mes mains ». Donc ici, il reprendra le « je », hein, après le « nous », parce qu'il veut se montrer en exemple, et parce que déjà, hein, il faut savoir que les frères ne travaillaient plus de leurs mains. Hein. Ils sont arrivés de plus en plus nombreux, il a fallu construire des grands couvents, faire des studiums, et il fallait des livres, etc. Et donc, les frères, il y a eu un changement là. Hein, il n'empêche que certains, c'est Celano, il y a des pages très très savoureuses dans la deuxième de Celano sur les frères oisifs et les frères gloutons, hein, qui connaissent toujours l'heure du repas, hein, et qui sont vraiment, alors ça veut dire quand même qu'il y avait déjà pas mal de déviations, et François veut dire ben, allez travailler. Hein. Il faut savoir que le mot travail au temps de François, donc c'est le labor, hein. C'est le labour, c'est le lourd travail de la terre. Et puis alors, après, il dira recourons à la table du Seigneur en demandant l'aumône de porte en porte. Hein. Et nous savons très bien que François voulait frère mineur, frère petit, frère qui travaille. Hein, et pour lui, c'est quand on ne reçoit pas le prix du travail qu'on va aller mendier. Hein, et nous sommes devenus un ordre mendiant. Ça veut dire qu'on n'a pas suivi François. Il fallait d'abord travailler. Hein, et puis alors après, si on n'a pas assez pour vivre, on va mendier. Et pas faire l'inverse. Hein. Donc François, jamais François n'a conçu la mendicité comme le moyen normal de subsistance des frères. Hein. Et d'ailleurs, c'est Jacques de Vitry qui dira « Nous ne donnons certainement pas le nom de pauvre à qui pourrait vivre du travail de ses mains et s'emploie pourtant à mendier. » Donc vous voyez, il y a eu là une déviation sur laquelle, et c'est pour ça que François redit « Je travaillais de mes mains. » Et puis alors après, et il terminera avant sa grande mise en garde sur la paix. Hein, donc, que le, voilà, la paix, voilà le mot, c'est un peu le mot clé, le mot qui résume un peu tout ce que François a compris. Et il faut remettre cela, hein, dans tous les conflits de l'époque de François. Hein. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant. Hein. François avait d'abord, dans sa conversion, il voulait la gloire militaire, hein, François. Hein. Et il a dû faire passage de la gloire militaire à la gloire de Dieu. Hein. Mais dans cette gloire de Dieu, il veut apporter la paix, et ce n'était pas évident. Qu'est-ce que c'est que ces frères qui disent d'abord la paix soit avec toi, mais pour François, c'était dans l'Évangile, on l'a encore lu aujourd'hui. Alors, nous passons à la mise en garde. Ici, le ton change. François devient dur, tranchant. Hein. Il va dicter des châtiments. Quelque part, je crois qu'il veut sauver l'essentiel de la vie des frères qui est gravement en danger. Alors, il va donner toute une série de dangers. Il va d'abord parler des bâtiments. C'est vrai que regardez ce qu'il y a là, hein, derrière moi, hein, c'est très, très impressionnant. Hein. C'est pour ça que, vous savez, il est important d'aller, quand vous allez à Assise, d'aller voir un petit peu les ermitages, les marchés sur la route, etc. Hein, parce que le Sacro Convento, mais enfin les frères Long, hein, c'était un couvent quelque part où le pape devait aller avec sa cour. Hein, et donc c'est pour ça que c'est un peu grand. Hein. Il n'empêche que Bonaventure, hein, dans une lettre circulaire, hein, dira « L'érection de bâtiments coûteux qui sèment la discorde dans nos communautés consterne nos amis et nous expose à un jugement sévère de l'extérieur. » Donc vous voyez, très vite, on sait que François est d'ailleurs monté là pour enlever les tuiles, hein, c'est symbolique. Il n'empêche que c'était un problème, et c'est un problème pas facile, parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup de monde, beaucoup de frères, hein, voilà, je me souviens un de mes frères Romain Mailleux qui disait, tu vois tous les frères là-bas à Assise, et tu les verrais tous sur les routes comme ça, c'est pas possible, il faut quand même qu'il y ait un peu une clôture qu'on voit un petit peu clair par rapport au bâtiment. Alors je passe aussi par rapport aux privilèges. François veut que nous restions des mineurs, c'est à partir de là, hein, et donc il veut pas des privilèges. Or les frères ont été souvent demandés des privilèges parce qu'ils n'étaient pas reçus par les évêques. Mais pour François, quand il n'était pas reçu par un évêque, il sortait par une porte et puis il rentrait par une autre. Et l'évêque, alors après, avec sa façon, il l'acceptait. Mais en fait, quand il parle qu'il ne faut pas demander des privilèges en cour de Rome, eh bien c'est la grosse question pour François, est-ce que mes frères vont rester petits et mineurs? Quand on sait qu'il y a un livre qui a paru, sur les privilèges des frères mineurs, avec toute la nomenclature des privilèges des frères mineurs. Et puis alors après, il parlera aussi de l'indépendance de certains frères. Ça a toujours été déjà du temps de Saint Benoît. Hein, il y avait les frères vagabonds, les frères girovagues, hein, qui couraient partout. Hein, et bien sûr que du temps de François, il y avait la même chose. Hein, et d'ailleurs, dans sa règle, sans cesse, jamais errant, jamais stable, esclave de leur passion, hein, dira Benoît. Et ça, c'est resté assez fort. Alors, par rapport à l'office divin, de nouveau, un petit... les frères mineurs sont très liés à l'office. Vous ne pouvez pas faire l'histoire de l'office divin sans parler des frères mineurs. Parce que, avant, il y avait tous les gros livres... Hein, le lectionnaire, l'hymnaire, les différents livres. Quand les frères étaient sur les routes, ils ne pouvaient pas non plus prendre tout ça. Donc, ils ont quelque part inventé le breviarium, le bref. si vous voulez, le premier livre de poche, quelque part, parce que donc on a encore certains petits bréviaires comme ça, des frères du XIIIe siècle. Dans le fond, Rome aussi, qui devait souvent voyager, hein, a pris. Il y avait donc, si vous voulez, quelque chose de pratique. Les frères devaient prendre quelque chose de bref, de petit, ils ne pouvaient pas emporter tous ces gros volumes. Ça, c'est... Mais il y avait une autre raison pour laquelle François tape un peu sur la table par rapport à l'office divin, c'est la raison idéologique. Prendre l'office de Rome, c'est montrer qu'on n'était pas une secte. C'est extrêmement important. Et donc les frères, par rapport à l'office, devaient montrer qu'ils étaient en relation avec Rome. Alors, je termine alors sur le petit commentaire avec la conclusion. Hein. Et donc, c'est ici un peu le cœur de François, hein, le cœur du petit pauvre. Hein. Il va nous donner donc la signification du texte. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Donc, d'abord, c'est un souvenir. Souvenir en latin, c'est recordatio, c'est-à-dire une reprise dans le cœur. Donc, reprendre dans le cœur tout ce qui est essentiel pour François. C'est ça son testament, hein? Reprise dans le cœur. Et puis, c'est une admonition, hein? C'est-à-dire, François s'attache un peu à dénoncer les dérives, hein, du présent, mais il y a aussi un appel à la raison. Il appelle à la raison, frère. C'est pas simplement le cœur. Il appelle aussi, mais il appelle à la raison, à la réflexion. Donc c'est une admonition. Et puis c'est une exhortation, c'est une sorte de parole, si vous voulez, parole d'encouragement. Et puis alors le mot est lâché, mon testament. C'est un testament. Donc si vous voulez, c'est en même temps témoignage, c'est un mot très riche quelque part, c'est en même temps héritage, c'est en même temps alliance, c'est un peu tout ça. Donc avant de partir, François a sans doute conscience de faire alliance avec ses frères. Et c'est à ce moment-là qu'il va donner un petit peu sa carte d'identité, François tout petit. Voilà, c'est frère François, on l'appelait le frère. Et alors après, ça se termine donc par la bénédiction finale. Et c'est assez intéressant que la bénédiction finale, elle est trinitaire. Or les biographes parlent peu de la relation de François à la Trinité, parce qu'ils ont été tellement pris par la radicalité de François par rapport à Jésus, qu'ils n'ont peut-être pas vu que François a une théologie, si vous voulez, très très trinitaire. C'est encore Zundel, je reprendrai ça pour terminer, qui dira « Tout d'un coup, dans la lumière de Saint François, tout cela a pris feu, j'ai compris qu'il était dans l'histoire de l'Église, celui que Dieu mettait sur notre route pour nous introduire dans le dépouillement infini du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça, c'est dans la retraite qu'il a fait au Liban. Voilà. Et donc, après cela, donc, je donne un peu quelques pistes pour aujourd'hui. Mais je pense que, avant de prendre des pistes pour aujourd'hui, il faut un peu comprendre un peu qu'est-ce que François a voulu dire. Alors, c'est pour ça que j'ai mis « habiter les mots anciens de François pour mieux habiller ma propre vie ». Je pense que c'est un peu ça. « Habiller les mots anciens de François pour... » Alors, dans un premier petit passage, je fais la différence entre l'écorce et la vie. L'écorce, c'est un peu l'époque de François, c'est son tempérament, c'est la situation de l'Église à ce moment-là. Tandis que la sève, si vous voulez, c'est tout le dynamisme, c'est tout le dynamisme interne de l'aventure de François. Au-delà des contingences c'est un peu l'écorce. Donc essayez de retrouver ce dynamisme de foi. Et donc je pense que toutes nos adaptations aujourd'hui doivent se faire et s'enraciner dans la sève. Sinon nous risquons de faire des contresens. Je me souviens d'un postulant qui me disait Est-ce que, donc il reprenait, si vous voulez, l'écorce, il n'avait pas vu la sève, hein, et il disait, est-ce que vous touchez à l'argent? Parce que les premiers frères ne touchaient pas à l'argent. Est-ce que vous touchez à l'argent? Et moi, je lui ai répondu, mais oui, je touche à l'argent. Mais il ne s'est pas rendu compte, le brave, mais les riches, hein, ne touchent pas à l'argent. Ce sont les pauvres. Je me souviens, en Afrique, il y en avait qui pliaient les billets, hein. Ils pliaient les billets qui étaient pleins de transpiration parce que les hommes et les femmes mettaient ça sur eux, ils n'avaient pas de porte-monnaie et donc ces billets étaient pleins de transpiration. Oui, nous touchons, les pauvres touchent l'argent. Ce sont les riches qui ont des cartes de banque et qui peuvent comme ça voyager partout. Hein. Donc vous voyez, je crois qu'il faut faire très attention, bon, c'est un petit détail, hein, faire très attention de redécouvrir un peu le dynamisme, hein, et de ne pas vouloir une espèce de copie conforme. Il faut réadapter. Alors, bien sûr que dans les quelques pistes pour aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas parler de que pour François, tous les biens viennent de Dieu. Ça, c'est, je pense que c'est fondamental et c'est le fil rouge de tout le Testament. Hein. Tous les biens viennent de Dieu. Et c'est vrai que l'homme du 21e siècle n'est pas ni préparé, ni habitué à cela. Tous les biens viennent de Dieu. Hein. Parce que c'est vraiment le contraire de l'individualisme ou de l'égocentrisme ou de la maîtrise de ses biens à partir de soi. Hein. Et donc, ce fil rouge du Testament nous redit cette espèce de relations fondamentales, hein, et ça nous empêche de tomber dans le pouvoir, parce que je pense que François a beaucoup plus peur, hein, du pouvoir que de la désobéissance des frères. Pour lui, le pouvoir, c'est ça. Et moi je pense que même, vous savez, le pouvoir politique, c'est encore le pouvoir à l'extérieur. Le pouvoir sur les âmes, hein, c'est le pouvoir à l'intérieur, et ça peut faire des dégâts. Et nous savons bien que dans l'histoire de l'Église, parfois l'Église s'est trop servie du pouvoir pour écraser et pas pour amener à l'Évangile. Et donc voilà, je pense que c'est parce que nous aurons fait l'expérience de Dieu, hein, et que les choses du monde n'exerceront plus sur nous le même attrait et la même pression quand on sait que tout nous vient de Dieu et que j'ai à rendre grâce parce que j'ai tout reçu, eh bien je n'aurai plus cette tendance à consommer sans fin. Alors bien sûr, dans un deuxième point, puisque c'est fondamental, hein, la rencontre du lépreux, hein, j'ai un peu une page là-dessus. Le pauvre, en fait, c'est un miroir, hein, qui nous révèle notre pauvreté fondamentale. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Hein, hein. Il serait naïf de croire qu'il y a des êtres qui sont indemnes, qui peuvent passer une vie comme ça, sans crise, sans pauvreté. Hein. Je crois que fondamentalement, nous sommes tous blessés quelque part. Hein. Et bien sûr, ce qui diffère, c'est les formes de pauvreté, hein, et le degré de souffrance et les circonstances et le milieu dans lequel nous vivons. Hein. Mais quelque part, nous avons à découvrir, et je pense que la rencontre du pauvre, hein, nous ramène à notre propre pauvreté fondamentale. Hein. Et bien sûr que pour François, hein, quand il fait découvrir, quand il découvre le pauvre, derrière le pauvre, il y a le Christ. Et ça, c'est quand même assez fondamental. Alors après, donc dans un troisième temps, j'ai donc le retour à l'Évangile. Je reprendrai ici un texte de Christian Bobin. Christian Bobin, donc, qui a écrit ce livre, qui l'a fait connaître et qui a fait aussi connaître François dans le très bas. Mais c'est dans un autre livre, il dira ceci. Certains livres, certains rares livres, donnent une lumière que personne ne pourra éteindre et qui vient d'ailleurs. Je crois qu'il vient d'ailleurs. Les vraies lectures sont brûlantes. Et je pense que pour François, hein, sa lecture de l'Évangile l'a brûlé. Et alors là, ici, pour nous, je pense qu'il y a toujours une réciprocité entre la parole de l'Évangile et notre vie. Plus je m'enracine dans la parole, plus je deviens vivant et aimant. Et plus j'approfondis ma vie, plus la parole me parle. Il est un fait que je lis l'Évangile à un certain moment de ma vie. Et puis je fais une expérience très forte. Et puis je relis la même phrase. Eh bien, elle devient brûlante. Elle dit, mais c'est extraordinaire, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a une espèce de jeu très important, et François le vivait évidemment bien plus que nous, hein, entre ce jeu, entre la parole et la vie. Et plus il allait en chemin, plus il découvrait que tout vient de Dieu, plus il redécouvrait l'Évangile encore avec une autre force. Et donc, dans cet Évangile, nous avons à nous y attacher, à nous y séjourner, à nous imprégner ou à le ruminer, comme disaient les anciens. Voilà, retour à l'Évangile. Et puis alors, il y a le « moi ». Frère François, hein, la fraternité, c'est bien sûr que ce sont des pistes pour aujourd'hui, hein, nous avons la foi, nous n'avons pas une foi personnelle, oui bien sûr qu'on a une foi personnelle, mais nous avons une foi que nous avons à partager avec les autres, nous avons à la chercher, nous allons à la confronter, nous avons à l'interpréter entre frères, hein, c'est en fraternité que nous avons à vivre cet Évangile. Puis alors il y a la grâce de travailler. C'est évident que là, c'est un des points les plus difficiles au niveau de l'adaptation, hein, parce que nous ne sommes pas du tout, hein, dans la même société que François. Bien sûr qu'aujourd'hui, on parle de crise du travail, de stress au travail, de fatigue nerveuse, d'harcèlement au travail. Hein, c'est toutes des questions que François n'avait pas. Hein, mais on peut quand même se demander si cette parole de François n'a pas encore un impact aujourd'hui. Hein. Je pense que le rapport à l'argent, à la minorité, au pouvoir, hein, à l'oisiveté, à la solidarité, est-ce que ce n'est pas des questions qui traversent tous les temps? C'est toujours un peu les mêmes choses. Hein. Et alors, on pourrait se poser quelques questions, bien sûr. Je les ai mis là dans mon petit livre. Comment concilier l'intuition franciscaine, hein, et la spécialisation aujourd'hui, hein. Ce sont des questions qu'on peut peut-être reprendre en fraternité. Y a-t-il des engagements qui ne sont pas franciscains? Ou bien, comment le travail affecte-t-il ma prière, ma relation à Dieu, hein, ma relation à la création? Ou bien y a-t-il des travaux incompatibles avec la vie de prière et la vie communautaire? Enfin voilà, on a parfois, même chez nous, des dérives. Vous savez, quand on m'a demandé d'aller à Besançon, eh bien j'ai dû quitter mon travail et je l'aimais beaucoup. Ce travail des mains, c'était vraiment pour moi extrêmement important. Et je suis arrivé, voilà, parce que je trouvais qu'il était bon de vivre avec mes frères et d'obéir à mes frères, de venir ici à Besançon. Eh bien, voilà, vous savez, vous quittez quelque chose, eh bien, vous recevez quelque chose d'autre. Et alors c'est l'évêque qui m'a appelé à un tout autre travail. Je n'imaginais pas d'être exorciste du diocèse. Donc je suis aujourd'hui un chasseur de diables. Le diable, je l'avais mis au placard. Hein, mais c'est un travail vraiment pour moi tout à fait autre que le travail de mes mains. J'ai dû rencontrer toute une humanité vraiment très, 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 très blessée. J'ai été obligé de travailler avec des psys. Et c'est vraiment... Donc moi, je suis exorciste depuis 17 ans. Et ça m'a vraiment fort agrandi dans mon humanité. Donc c'est un tout autre type de travail, mais ce travail d'écoute, c'est là où j'ai dû réinventer des rites, hein, des rites vraiment de libération, mais il faut entendre, c'est vraiment... Mais je suis toujours très émerveillé des gens que je rencontre, mais terriblement, terriblement blessé par la vie. Mais c'est vraiment, j'ai reçu ça et je rends grâce à Dieu. Alors, un sixième point avant la petite conclusion, j'ai mis l'Église, ma mère et ma croix. Donc je suis fort influencé par Marcel Legault, c'est chez Marcel Legault que j'ai pris ça. Il faut savoir que pour François, il veut vivre l'Évangile dans l'Église et pas sans l'Église. Et je crois que c'est absolument capital. Je crois que si François, d'une manière orgueilleuse, aurait voulu quitter l'Église pour vivre l'Évangile, eh bien, nous ne serions pas là ce soir, aujourd'hui. C'est parce qu'il a voulu vraiment rester dans l'Église. Et il faut savoir que c'est une attitude assez rare à son époque. Tous ceux qui voulaient vivre l'Évangile finissaient par sortir. Et même, je vais prendre les textes qu'on disait sur l'Église à l'époque. On l'appelait l'Église charnelle, la Babylone. La Babylone, c'est la ville du péché par excellence. La Babylone, ivre du sang des martyrs, synagogue de Satan, courtisane, grande prostituée de l'Apocalypse. Et alors, François, dans le fond, reprendra la règle d'or des pères du désert. Ne pas accuser les autres, mais toujours s'accuser soi-même. Tu vois l'orgueil chez ton frère, arrache toutes les racines en toi. Tu vois la cupidité, regarde où est ton désir. Tu vois de la violence, veille à tes mains qui se crispent et tes pensées qui assassinent. Voilà, je pense que c'est une réflexologie spirituelle des pères du désert que François a repris. Je pense que quand on étudie les pères du désert, c'est très, très intéressant de les étudier, parce qu'on voit que François donc, a repris et actualisé ça à son temps. Et donc, je pense que par rapport à l'Église, il y a toujours un peu une continuité et une rupture. Une continuité, parce que François veut, et il le dit, rester stable dans la foi catholique, ça c'est la continuité, et la rupture, il la trouvera dans le radicalisme évangélique, et dans la folie de la croix. Il dira d'ailleurs, allons à notre mère la Sainte Église romaine. Et Bernanos ajoutera, on ne réforme l'Église qu'en souffrant par elle, pour elle. Mère et croix vont ensemble pour François, mère et croix. Et c'est Henri de Lubac, sur sa méditation de l'Église, qui dira, mère, quand il reparlera de la mère, mère Église, mère patiente, elle recommence toujours sans se lasser son œuvre de lente éducation et reprend un à un les fils de l'unité, les filles de l'unité que ses enfants déchirent toujours. Et puis après, mère attentive, elle nous protège contre l'ennemi qui rôde autour de nous, cherchant sa proie. Mère aimante, elle ne nous replie pas sur elle, elle nous lance à la rencontre de Dieu qui est tout amour. Et puis il termine sa méditation en disant, mère ardente, elle met au cœur des meilleurs d'entre nous, de ses enfants, un zèle toujours attentif et les envoie partout en messager de Jésus-Christ. Voilà. Et simplement, donc, en conclusion, je pense que François nous fait passer de l'intellect au cœur. Et si nous osons son testament, si nous retrouvons quelques repères pour écrire notre vie et notre propre histoire, moi je crois que ça peut se faire. Et puis je termine par un mot d'un mystique. Ami, c'en est assez. Si tu veux lire encore, va et deviens même le livre. Voilà, terminé.
Merci Max pour plus que cette introduction, cette invitation à redécouvrir, à revisiter tous ces fondamentaux et fondements de notre charisme et notre vocation franciscaine.